Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie des textes fondateurs du nouvel ordre international né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a aujourd'hui 60 ans et fut inspirée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À l'époque, en 1948, elle fut adoptée par 48 États sur les 56 participants, rédigée en français, lue et approuvée dans sa version originelle par les membres des Nations Unies. L'année 2008 marque le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies a lancé une campagne d'une année au cours de laquelle toutes les entités du système des Nations Unies prendront part à des activités sur le thème « Dignité et justice pour tous ». Avec nous aujourd'hui dans le studio de Canal Académie pour parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de ses 60 ans, j'accueille Mireille Delmas-Marty qui occupe la chaire d'études comparatives et internationalisation du droit au Collège de France et qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour madame.
Bonjour.
Y a-t-il eu des textes non occidentaux pour constituer le socle de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 ? De quoi se sont inspirés les juristes René Cassin et Leonard Roosevelt et John Peter Humphrey ?
C'est une très bonne question parce qu'elle amène tout de suite à la critique dans la mesure où le texte qui était préparé par le secrétariat pour la commission était au fond fait d'une la collecte des documents existants, des déclarations existantes sur les droits de l'homme. Or, c'était des déclarations qui venaient toutes du monde occidental. Donc, immédiatement, on se pose la question de l'universalisme.
Oui. La Chine a proposé quelque chose.
Alors, justement, c'est la réponse à la critique. Mmh. La réponse à la critique, c'est que ce n'était qu'un point de départ, cette collecte de textes existants, et qu'à partir de là, le travail des rédacteurs a été justement de confronter ce premier projet à une discussion avec les membres du groupe qui représentaient diverses civilisations, diverses cultures. Notamment, pour la culture non occidentale, il faut signaler le rôle très actif qu'a joué le représentant de la Chine, Zhang Pengchun, qui était un diplomate assez occidentalisé lui-même, mais en même temps très soucieux de défendre ce qu'il appelait la tradition confucéenne. Il avait même, dans une première réunion, suggéré que tous les membres prennent 6 mois pour lire Confucius. Mais comme 6 mois, ça ne suffit pas, qu'il faut une vie entière, on a renoncé à ce préalable. Alors, il y avait aussi un philosophe qui a beaucoup d'ailleurs dialogué avec Zhang Pengchun, qui était un Libanais, Charles Malik, qui a joué un rôle important. Donc, les trois occidentaux que vous avez cités ont certainement été des éléments majeurs, Eleanor Roosevelt, René Cassin, bien sûr, que tout le monde connaît en France, et Monsieur Humphrey. Mais il n'était pas tout seul. Et il y a eu un véritable débat.
Qu'on connaît peu, en fait.
Alors, je vais vous donner un exemple, parce que tout ça a trait à la question de l'universalisme, puisque c'est le reproche qu'on fait à la Déclaration universelle, entre guillemets. Il y a eu de vrais débats. Et il y a eu notamment un débat sur l'article premier, qui est l'article qui organise l'ensemble, qui donne au fond les bases de l'ensemble des textes qui suivent. Alors la question s'est posée de savoir s'il fallait faire référence à Dieu. Les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Alors, au départ, il a été question d'introduire « ils sont doués par Dieu ». Et il a été également question de dire « et par la nature ». Au fil des discussions, les membres ont fait apparaître que précisément, si on voulait que cette déclaration soit universelle ou peut-être plus modestement universalisable, il ne fallait pas prendre parti sur des questions qui sont très discutées d'une culture à l'autre. Donc on a fait disparaître la référence à Dieu, mais il restait la référence à la nature. Et là, c'est le délégué chinois qui a fait observer que si on supprimait la référence à Dieu, il fallait aussi supprimer la référence à la nature. Pas de parti pris sur l'origine de l'homme. En revanche, il a fait ajouter, et là on voit comment d'une culture à l'autre, la déclaration a pu s'enrichir, il a fait ajouter la conscience à la raison. Oui. Parce que dans la vision occidentale, les hommes sont doués
De raison et de conscience.
Et le délégué chinois a fait observer que ce n'était pas suffisant pour caractériser les hommes. Et là, il a proposé d'ajouter conscience. Enfin, qui est d'ailleurs une traduction un peu approximative du terme chinois. Mais enfin, qui est un apport venu de l'extérieur par rapport à la tradition occidentale. Donc, il y a dans le travail de rédaction du texte une volonté très claire de rendre ce texte universalisable.
Donc on voit aussi que ce sont des discussions qui animent l'histoire et la vie de cette déclaration et des juristes depuis 60 ans, parce que les mêmes problèmes se posent quand même aujourd'hui avec l'apparition d'autres soucis, on va dire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a débat tout de suite sur ces valeurs universelles qui sont à trouver en 1948, et apparemment, encore aujourd'hui, il y a toujours débat sur d'autres valeurs, comment se mettre d'accord.
Oui, alors en fait, il y a eu un débat officiel en 1993, parce qu'il y a eu une grande conférence internationale à Vienne, où il a été question de remettre en cause le caractère universel de la déclaration, qui d'ailleurs, je le rappelle, n'était pas prévu au départ. Le projet, c'était un projet de déclaration internationale, beaucoup plus modeste. Et c'est notamment René Cassin qui tenait beaucoup à ce caractère universalisable qui a fait modifier l'adjectif. Alors, en 1993, c'était très contesté parce que le nombre d'États avait considérablement augmenté. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on est à près de 200 États. Il y a eu toutes les décolonisations, il y a l'éclatement des empires avec la création de nouveaux États. Donc, la configuration politique est beaucoup plus diversifiée. Et du coup, on a contesté ce caractère universel, notamment du côté des pays d'Asie, qui proposaient de parler des valeurs asiatiques comme étant d'autres valeurs que celles de la déclaration de 1948. Et puis finalement, l'accord s'est fait autour de l'idée qui était restée peut-être implicite en 1948 et qui a été rendue plus explicite, que les droits de l'homme sont universels ou universalisables dans la mesure où on admet leur indivisibilité. Or, l'indivisibilité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre de préséance entre les droits civils et politiques, qu'on assimile plutôt à la culture occidentale, et les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont plutôt revendiqués par les autres cultures. Alors, l'indivisibilité est en quelque sorte le garant de l'universabilité. Ce qui fait que, au contraire, au lieu de remettre en cause l'universalisme, il a été conforté par cette conférence de 1993. Cela étant, au fur et à mesure que le temps passe, les droits de l'homme s'enrichissent, mais en même temps, ils s'obscurcissent.
Le droit évolue, c'est aussi une des grandes positions que vous avez là dans vos différents ouvrages. Vous parlez de laboratoire du droit. Comment justement les droits de l'homme se sont donc dans un premier temps enrichis ?
Dans un premier temps, ils ont enrichi à partir d'une déclaration. Il y a eu une masse de normes juridiques, donc d'instruments juridiques applicables devant les juridictions. Il y a eu une multiplication donc, des sources juridiques et des instruments juridiques porteurs des droits de l'homme. Et il y a eu en même temps une diversification de leur contenu. Et puis, un début de mise en œuvre concrète par des juridictions internationales, au niveau régional. La Cour européenne des droits de l'homme, un peu plus tard la Cour interaméricaine, et encore plus tard, plus récemment, la Cour africaine. À mesure que les textes s'ajoutent les uns aux autres, à mesure que le contenu se diversifie et surtout à mesure qu'on entre dans des cas concrets à travers la mise en œuvre par des juges, eh bien, l'affaire se complique. Et c'est pourquoi je dis les droits de l'homme deviennent plus obscurs en même temps qu'ils s'enrichissent, parce qu'on découvre toutes sortes de conflits de valeurs.
Alors, justement, quels sont ces nouveaux conflits ?
Il y a les conflits entre droits de l'homme, oui. Les droits civils et politiques opposés aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est bien beau de dire qu'ils sont indivisibles, mais concrètement, comment faire quand ils viennent en contradiction ?
Alors,
et puis, à l'intérieur même, je vais vous donner un exemple encore plus simple, à l'intérieur même des droits civils et politiques, les différentes libertés peuvent entrer en conflit. Le droit à la vie privée, par exemple, peut entrer en conflit avec la liberté d'expression, la liberté de la presse. La sécurité peut entrer en conflit avec les libertés. La dignité peut entrer en conflit avec certaines formes de liberté d'expression. Donc, on a, ou tout simplement avec la liberté de chaque individu. Donc, on a potentiellement des conflits qui étaient en suspens dans le texte de départ, mais à partir du moment où on a des juges qui appliquent ces textes, on découvre la difficulté d'application. Et puis, on découvre aussi que toutes les cultures n'interprètent pas de la même manière les mêmes termes. La notion de dignité n'est pas forcément la même dans toutes les cultures.
Comment justement les juristes s'accordent pour concilier ce principe de diversité des cultures et puis la recherche de valeurs universelles ?
Alors, en fait, la question, il n'y a pas très longtemps qu'elle est posée aussi nettement du point de vue juridique. Je dirais qu'elle remonte surtout à la convention de 2005 de l'UNESCO sur la diversité des cultures, qui ne remet pas en cause la déclaration universelle. Donc, on a d'un côté une déclaration universelle et de l'autre l'obligation de reconnaître la diversité des cultures qui peut donner un contenu différent au même principe. Si on prend un exemple, le principe de dignité de la personne humaine, nous l'entendons dans le monde occidental comme excluant les discriminations entre hommes et femmes et excluant certaines pratiques culturelles comme les mutilations sexuelles. Et nous considérons que c'est contraire à la dignité, alors que dans d'autres cultures, et notamment dans la perspective du droit musulman, contraire, les mutilations sexuelles font partie de la culture. Alors comment admettre la diversité culturelle et l'universalisme de la protection de la dignité ? Et là, la réponse est intéressante parce qu'elle n'est pas dans les textes, immédiatement. Elle n'est pas. Quand on regarde les textes, on se dit qu'il y a une contradiction. Et dans les pratiques, eh bien, il y a une évolution qui s'est faite lentement au sein même du groupe africain, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui s'était contenté d'un principe très général de respect de la dignité au départ. Mais on a adopté, au début des années 2000, un protocole additionnel qui précise que ce principe de dignité doit être interprété comme excluant désormais les mutilations pour les femmes. Donc, ce que je tire de cet exemple comme enseignement qui me paraît essentiel pour comprendre les droits de l'homme et surtout le droit des droits de l'homme, c'est que c'est un droit évolutif. Et qu'au fond, je crois que vous avez employé tout à l'heure l'expression de texte fondateur pour la Déclaration universelle. C'est vrai, c'est ce qu'on dit en général. Mais il ne faut pas peut-être prendre à la lettre le texte. Les droits de l'homme ne sont pas des concepts fondateurs dans la mesure où ce ne sont pas des concepts immobiles, fixés une fois pour toutes. J'aime mieux parler à leur propos de processus transformateur. Ils mettent en mouvement les différentes branches du droit. Et il crée une dynamique. Et je crois que c'est très important, si on veut apprécier l'apport de la Déclaration universelle, de se placer dans cette perspective dynamique.
Dans cette perspective dynamique, entre 1948 et 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on peut dire que le texte de la Déclaration a vieilli ?
Non, je crois que, encore une fois, je crois qu'il s'est surtout enrichi.
Il s'est enrichi.
Il s'est enrichi parce que les instruments juridiques ont suivi. Au départ, une déclaration, comme le nom l'indique, n'engage pas les États. Il faut pour cela une convention. La convention, quand elle est signée et ratifiée par un État, engage alors l'État. Alors, il a fallu attendre 1966 pour avoir, sous le nom de pacte des Nations Unies, deux conventions, l'une sur les droits civils et politiques et l'autre sur les droits économiques, culturels et sociaux. Le problème, c'était cette division en deux. Pourquoi ? Alors que dans la Déclaration universelle, comme je le rappelais tout à l'heure, les droits sont indivisibles. Pourquoi ? Mais tout simplement à cause de la guerre froide. À cause de la guerre froide, ce qui fait qu'à l'Est, on préférait le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, et à l'Ouest, le pacte sur les droits civils et politiques. D'avoir deux instruments, ça permettait à certains États de ratifier seulement l'un d'entre eux, de choisir. Ce qu'a fait la Chine en choisissant pacte sur les droits économiques, culturels et sociaux, et ce qu'ont fait les États-Unis en choisissant le pacte sur les droits civils et politiques. Heureusement, un certain nombre de pays, dont la France, ont ratifié l'ensemble. Mais il n'empêche qu'on a deux instruments différents, avec des modes de contrôle différents, et même à l'échelle européenne, on retrouve cette division. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle ne comprend pour l'essentiel que des droits civils et politiques. Et il y a une charte sociale européenne pour les autres droits.
On va donc avoir longtemps ce duo.
Il y a une avancée sur ce point qui est le résultat de la charte de l'Union européenne, donc pas la Convention européenne des droits de l'homme qui est la grande Europe, qui englobe même la Russie et la Turquie.
L'Europe au sens large.
Mais la charte des droits et libertés fondamentaux de l'Union européenne, donc l'Europe des 27, qui a été adoptée, cette charte, à Nice en 2000. C'est le premier instrument à ambition aussi large, premier instrument juridique qui ne divise plus les droits de l'homme en deux catégories, mais qui les rassemble en 6 chapitres où on trouve à la fois des droits des deux anciennes catégories. Donc la réunification, en quelque sorte, elle est assurée par ce texte de l'Union européenne. Mais il a fallu attendre 2000.
Oui.
Et c'est valable seulement pour les 27 États membres.
Oui. Donc il y a encore du chemin à parcourir pour...
Il y a encore du chemin.
Pour réaliser l'idéal de René Cassin avec sa formule
célèbre. Parce qu'effectivement, la déclaration a ouvert un chemin.
Voilà, qui était protéger tout l'homme et protéger les droits de tous les hommes en tout lieu. Alors, donc ça paraît vraiment un idéal lointain.
Oui, et puis protéger les hommes de la terreur et de la misère. La terreur et la misère n'ont pas encore disparu sur Terre.
Et là, c'était en 1948. Donc, ce sont toujours des questions d'actualité aussi pour le droit. Mais quelle est l'évolution majeure par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et puis les conventions d'aujourd'hui, par exemple, qui prennent en compte... Dans la Déclaration de 1948, c'était surtout les individus étaient protégés des États.
On sortait de la guerre,
De rapport d'État et de l'individu par rapport au pouvoir.
Oui, parce qu'on sortait d'excès commis par les États. Mais vous avez raison de poser la question. À l'heure actuelle, il y a un certain nombre de violations des droits de l'homme qu'on peut attribuer à des personnes privées.
Oui.
Notamment, il y a eu beaucoup de reproches faits à certaines entreprises multinationales. Donc, se pose en effet la question juridique de savoir si les droits de l'homme sont aussi opposables aux entreprises, par exemple. Mais avant de passer à cette question, je voudrais quand même souligner qu'en soi, ça a été déjà une sorte de révolution d'admettre que les droits de l'homme soient réellement opposables à l'État, pas seulement en théorie et dans les principes de droit écrit, mais qu'un citoyen puisse intenter une action en justice devant un juge impartial et indépendant contre un État pour violation des droits de l'homme. Ça, c'est quand même un moment majeur. Et malheureusement, ce n'est pas possible dans toutes les régions du monde, mais seulement dans les régions qui ont créé une cour. Les trois exemples que j'ai donnés tout à l'heure, l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique maintenant.
En 2008, quand on pense au droit international, on peut penser à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais on pense aussi aux questions d'environnement, au développement durable. Et que fait-on alors à ce moment-là de la mer, de la terre, du climat, de ces biens ou de ce patrimoine mondial qui appartient à tous? Comment est-ce que ça se traduit en droit et comment ça peut se traduire par rapport à justement la Déclaration universelle des droits de l'homme?
Alors, c'est vrai que tout ce qui touche à l'environnement et à la protection de la nature ou du vivant non humain, parce qu'il faut penser aussi à la protection des animaux, échappe à la Déclaration des droits de l'homme. Donc, la question commence à être posée, alors, soit sous l'angle des droits de l'humanité. L'environnement peut être envisagé à travers l'humanité et l'humanité élargie des générations présentes aux générations futures. Mais l'environnement peut aussi être protégé en tant que tel, et pas seulement comme patrimoine de l'humanité, mais en tant que tel. La même question peut être posée à propos des animaux. Alors, est-ce qu'il faut parler des droits de la nature? Est-ce qu'il faut parler des droits de l'animal? Ça me paraît un peu excessif. Il y a une dissymétrie dans la relation droit de l'homme, il y a une symétrie entre les relations entre les hommes, mais entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'animal, il y a une dissymétrie. Donc il me semble que là, il s'agit plus de devoirs que de droits.
Et de biens.
Alors, on peut également, vous avez raison de parler de biens, mais à condition d'ajouter des adjectifs. On peut considérer, et c'est peut-être la tendance la plus récente dans le champ d'abord de l'économie, mais ensuite du droit, on peut considérer que, par exemple, le climat est un bien public mondial et qu'il doit être protégé en tant que tel. Et l'expression de bien public mondial est intéressante parce qu'on ne dit pas patrimoine de l'humanité, comme on avait commencé à le dire pour l'environnement dans les années 60. La Lune, par exemple, qui a été joliment qualifiée de patrimoine commun de l'humanité. Quand on dit bien public mondial, on ne l'attribue pas forcément à l'humanité, c'est plus large, c'est un bien qu'on protège en tant que tel. Alors public voulant dire surtout collectif, parce qu'en France on a tendance à opposer public à privé, or ces biens que sont le climat, pour prendre le même exemple, ils peuvent être protégés par les représentants des États, mais aussi par des entreprises. Donc ils sont collectifs. Le terme collectif est sans doute plus exact. Et puis, le terme mondial marque la dimension planétaire, même s'il y a des relais au niveau régional. Changement climatique, on en parle ces jours-ci, puisqu'il y a la négociation de la nouvelle phase dans ce qu'on appelle le processus de Kyoto. Eh bien, le changement climatique, il est traité à la fois au niveau mondial, par ce protocole de Kyoto, et les textes qui ont suivi, mais aussi au niveau régional. L'Union européenne est très en pointe en matière de protection du climat. Donc les biens publics mondiaux, ce sont peut-être, en tout cas c'est une question que je me pose, des valeurs globales en formation. On a avec les droits de l'homme des valeurs universelles, peut-être un peu en question, mais en tout cas critiquées, à vocation universelle. Et on aurait avec les biens publics mondiaux des valeurs globales en formation.
Ne craignez-vous pas que les certitudes scientifiques ou présentées comme telles puissent remplacer ou puissent servir justement cette avancée de l'universalisme des valeurs?
Est-ce qu'il faut parler de certitudes scientifiques? En général, les scientifiques sont des gens assez prudents et précis. Et, par exemple, sur le changement climatique, les experts ne prétendent pas avoir des certitudes absolues. Mais c'est vrai qu'ils pèsent beaucoup sur la décision en disant qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui font penser que le changement est dû en grande partie à des comportements humains. Et dans d'autres domaines comme les biotechnologies, ce sont les résultats des recherches scientifiques qui peuvent poser problème par rapport aux droits fondamentaux, comment traiter les nouvelles questions, comment imaginer des réponses à des pratiques qui n'existent pas encore, mais qui deviennent scientifiquement possibles, techniquement possibles, comme le clonage ou la fabrication de chimères en animal. Quelle réponse trouver à cela? C'est vrai que c'est solliciter beaucoup la Déclaration universelle que de lui faire donner directement les réponses. Mais en même temps, elle donne un fil conducteur, peut-être.
Donc, les juristes produisent de nouveaux textes pour ça? On réagit au cas par cas avec les résultats des comités d'éthique? Comment ça évolue?
Les comités d'éthique...
Il y a un renvoi, je veux dire.
Les comités d'éthique, effectivement, travaillent au cas par cas. Mais je crois que ce n'est pas contradictoire avec la logique des droits de l'homme, dans la mesure où, en réalité, quand il y a application des droits de l'homme par des juges, les juges raisonnent aussi au cas par cas. Donc il y a un travail quand même de conciliation à faire entre la vision biomédicale et la vision éthique. Et ça, ça se fait question par question. Sur le clonage, par exemple, il y a eu un accord assez facilement à l'échelle européenne pour interdire le clonage reproductif humain. En revanche, pour le clonage dit thérapeutique, où il ne s'agit pas de reproduire un être humain, mais simplement d'utiliser des cellules, pour les pays européens sont plus partagés. Mais sur le clonage reproductif, il y a eu un accord assez facilement. Et à l'échelle mondiale, il y a une déclaration qui va dans le même sens. Donc, tout dépend des questions.
Et aussi de la diversité culturelle, quand même.
Oui, alors, sur ces questions...
Parce que sur ces grandes questions, où
sur
commence
ces grandes
vie,
questions, je dirais que ce que je trouve intéressant, c'est que chaque culture est obligée de faire un retour sur elle-même, au fond, de faire un travail d'approfondissement de sa propre culture. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Paul Ricoeur sur la façon de réconcilier les différentes cultures. Il disait « Si je marche à la surface de la Terre, je traverse les différentes zones, les différentes cultures, mais je ne les rencontre pas. Et si je m'approfondis, et si les autres font le même travail, si je m'approfondis dans ma propre culture, dans ma propre identité culturelle. Et si les autres font le même travail, eh bien, on se retrouve. Et c'est peut-être l'un des intérêts indirects de ces nouvelles technologies d'imposer implicitement ce travail d'approfondissement qui peut aider non pas à une sorte d'unification culturelle à l'échelle mondiale, ce qui serait sans doute une perte énorme, mais qui peut aider à une harmonisation, une mise en compatibilité, éviter donc le choc des cultures.
Par un ajustement, mais il faut que ça puisse s'exprimer aussi.
Peut-être pour prolonger la discussion sur les différentes cultures, il y a quelque chose qui me frappe quand je réfléchis avec mes collègues scientifiques, c'est qu'au fond, eux ont surtout un travail qui porte sur l'hominisation, c'est-à-dire l'évolution biologique de l'espèce humaine. Et là, il y a très longtemps qu'elle se fait autour d'une seule espèce. Il y a peut-être eu, en des temps reculés, plusieurs espèces, le fameux Néandertal, dont on ne sait pas comment ni pourquoi il a disparu. Mais en tout cas, depuis le temps historique, même préhistorique, l'espèce humaine est unifiée. En revanche, les processus culturelle d'humanisation, donc l'hominisation s'est faite par unification, une seule espèce biologique. En revanche, l'humanisation, c'est-à-dire l'apprentissage d'une éthique, justement, l'humanisation s'est faite par différenciation des cultures. Et à l'heure actuelle, puisqu'on nous parle de globalisation, on peut se demander comment réconcilier les deux processus.
Celui d'hominisation et d'humanisation.
Voilà. Comment les conjuguer sans perdre l'extrême richesse de tout cet acquis de la différenciation culturelle. Ce serait dommage.
Mireille Delmas-Marty, pour conclure, pensez-vous que la paix perpétuelle, chère à Emmanuel Kant, soit un jour une réalité?
Vous savez, il employait l'expression de façon un peu ironique. avec l'image d'un cimetière, pas loin. Le seul moment où on est vraiment dans la paix perpétuelle, c'est dans les cimetières. Donc lui-même le voyait comme un idéal, mais il ne prétendait pas qu'elle serait instituée sur Terre. Mais c'est déjà beaucoup d'avoir une ligne d'horizon, un idéal commun. Au fond, c'est ça qui est inscrit dans le préambule de la Déclaration universelle, et c'est ça qui est universel, un idéal commun, que tous les peuples et toutes les nations se donnent comme horizon.
Merci Mireille Delmas-Marty.
Merci.